Hello, c'est Romain de 6ème Science, une petite pub, et on est prêt à envoyer de la science dans tous les sens.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
On vit très bien sans savoir.
Alors là, n'importe quoi.
Quand vous comprenez pas, vous dites c'est pas fou.
Je n'ai pas dit que ce serait facile, Néron.
C'est pas simple, mais j'ai compris.
Bien, je crois qu'on va bien s'amuser tous ensemble.
Sixième Science, un podcast 20 minutes et science et avenir.
Excusez-moi, vous savez où on peut manger de bonnes gencives de porc dans le coin ?
Chez Laplot, les meilleures gencives du littoral. Voulez-vous que je vous réserve une table ?
Quand j'étais petit, je gobais 4 douzaines d'œufs pour être fort, pour me sentir à l'aise.
On est régalé du monde à la ferme.
Les mal-aimés font-ils des mal-élevés ? C'est la question que l'on est en droit de se poser à propos des paysans qui fournissent aux assiettes des Français leurs œufs, le lait et la viande. Car le sujet du bien-être des animaux est devenu central dans une société où 5% de la population se revendique végétarien et où 9 sondés sur 10, d'après une étude du Crédoc menée en 2019, estiment que les animaux d'élevage devraient être mieux traités et mieux protégés. C'est un coup dur de plus pour la filière agricole qui doit repenser ses pratiques en profondeur alors qu'elle peine déjà à trouver sa nouvelle génération de fermiers, mais aussi à leur garantir des revenus décents. Dans tout ça, il y a une bonne nouvelle, les paysans n'auront pas à réinventer l'élevage tout seuls. Au Turfu Festival, l'événement des sciences participatives qui se tiendra au Dôme de Caen du 11 au 16 octobre, plusieurs ateliers réuniront agriculteurs et consommateurs pour discuter du bien-être animal et des moyens de l'améliorer dans les exploitations de la première région de France pour tout ce qui touche à l'élevage, notamment porcin, mais aussi de l'abattage. Je veux bien sûr parler de la Bretagne. Car on doit cette initiative à une structure locale, le laboratoire d'innovation territoriale Westerel. Nous en accueillons un représentant et pas le moindre, son directeur Romain Piovan. Bonjour Romain.
Bonjour Romain.
Nous serons accompagnés de l'éthologue Lydia Nobé, chercheuse à l'INRAE, donc c'est l'Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement. Elle officie plus précisément au sein de la chaire Bien-être Animal Vétagro SUP. Bonjour Lydiane.
Bonjour à tous.
J'allais oublier le grand vizir qui se cache derrière cet épisode hors série de 6ème Science, c'est François Millet, bien sûr, le co-organisateur du Turfu Festival, dont 6ème Science et l'heureux partenaire pour la seconde année. Bonjour François.
Bonjour Romain, bonjour tout le monde.
Maintenant que les présentations sont faites, on peut y aller avec une question somme toute simple, mais j'ai l'impression quand même qu'elle pose certaines difficultés, c'est est-ce qu'il existe une définition du bien-être animal ?
Alors c'est une très bonne question. Il existe même plusieurs définitions qui ont été données et qui ont évolué au cours du temps. Il y a une définition récemment là qui fait pas mal consensus, qui a été donnée par l'ANSES en 2018. Donc c'est une définition que je trouve très intéressante puisqu'elle est assez complète. Donc cette définition nous dit que le bien-être d'un animal est l'état mental et physique positif lié à la satisfaction de ses besoins physiologiques et comportementaux ainsi que de ses attentes. Et cette définition nous dit aussi que cet état varie en fonction de la perception de la situation par l'animal. Donc je vous l'accorde, c'est une définition un petit peu scolaire. À mon sens, ce qui est important de retenir ici, c'est que le bien-être des animaux a à la fois une composante physique, bien évidemment, mais aussi une composante mentale. Et il y a la notion aussi de perception de la situation par l'animal qui est important, à savoir que deux animaux mis dans la même situation, dans le même environnement, ne vont pas forcément percevoir cette situation de la même façon, et donc leur niveau de bien-être peut être différent.
J'ai entendu parler des 5 libertés. Qu'est-ce que c'est exactement ? Ça vient compléter un peu cette définition ?
Tout à fait. En fait, les 5 libertés donc, sont antérieures à cette définition. C'est une définition finalement un petit peu plus opérationnelle, je dirais. Donc, les 5 libertés nous disent premièrement que les animaux ne doivent pas souffrir de faim et de soif. Deuxièmement, qu'ils ne doivent pas souffrir d'inconfort. Troisièmement, qu'ils ne doivent pas souffrir ni de douleur, de blessure ou de maladie. Quatrièmement, qu'ils doivent aussi pouvoir exprimer les comportements naturels propres à leur espèce, et enfin, qu'ils ne doivent pas éprouver de peur ou de détresse. Donc je pense que c'est une définition qui est peut-être un petit peu plus claire pour tout le monde.
C'est vrai que quand j'entends ça, ça fait tout de suite écho aux images qu'on peut voir chez certaines associations, les vidéos qui popent de temps en temps sur la toile. La question qui suit, c'est, ok, maintenant qu'on a une définition somme toute claire et assez opérationnelle, comment on mesure ce bien-être animal quand on n'a pas la possibilité d'être dans la tête des animaux ?
C'est une très bonne question. Effectivement, c'est assez complexe, en fait, puisqu'il nous faut des mesures qui soient objectives. Alors, il existe différentes mesures de bien-être qui ont été développées et validées scientifiquement. Il existe en fait deux grands types d'indicateurs du bien-être. Il y a des indicateurs qui sont basés sur l'environnement. Pour ces indicateurs-là, on regarde si l'environnement qui est fourni aux animaux est convenable ou non. C'est ce qu'on fait, par exemple, quand on s'intéresse, par exemple, au nombre d'animaux par mètre carré dans un élevage. Le deuxième type d'indicateurs, ce sont des indicateurs qui sont, eux, basés sur les animaux. Donc là, on va vraiment observer les animaux, on va s'intéresser à leur comportement. Il y a aussi des indicateurs physiologiques qui peuvent être intéressants, comme par exemple les hormones de stress. On peut regarder aussi le niveau de production d'un animal qui peut aussi constituer un indicateur de bien-être. Et puis, on s'intéresse aussi à leur état sanitaire. À savoir que les indicateurs basés sur les animaux sont à privilégier par rapport à ceux basés sur l'environnement, puisqu'en fait, ils nous renseignent directement sur le ressenti des animaux. Donc, pour mesurer le bien-être animal, il est important de prendre en compte tous les aspects du bien-être. Comme on l'a dit précédemment, il y a à la fois une composante physique et mentale. En fait, le bien-être, c'est vraiment multidimensionnel. Donc, il faut vraiment une évaluation qui soit multicritère. En d'autres termes, en fait, nous, quand on veut évaluer le bien-être d'un animal, on n'utilise pas une seule mesure. En fait, on a tout un panel de mesures différentes afin de couvrir vraiment tous les aspects du bien-être animal. Alors, en pratique, quand on veut évaluer le bien-être, on se base généralement sur quatre grands principes. Le premier, ça va être l'alimentation. Donc, par exemple, on va regarder l'état corporel des animaux. Le second, ça va être le logement. Donc là, on va s'intéresser, par exemple, au confort de couchage ou au confort thermique des animaux. Le troisième, ça va être la santé. Donc, on va regarder, comme je disais tout à l'heure, l'état sanitaire des animaux. Et enfin, le comportement. Par exemple, on peut regarder le comportement social des animaux dans le troupeau ou, par exemple, la relation entre l'homme et l'animal.
S'il y a de l'agressivité, par exemple, entre des porcs au sein d'une ferme, c'est un signe plutôt de mal-être, c'est ça ?
Tout à fait.
Un malaise agricole ici. Il est douloureux.
Qui veut du jus pendant qu'il est chaud ?
Je veux bien, oui.
Et maintenant qu'on a un peu tous ces indicateurs en tête, quels sont les engagements que la filière agricole, alors je fais une grosse généralité en disant la filière agricole, j'imagine il y a différentes filières, la filière porcine, la filière bovine, mais est-ce qu'il y a des engagements qui sont pris du côté du bien-être animal et qui contrôle le fait que ces engagements sont bien respectés ?
Bah, en fait, les filières prennent des engagements essentiellement au travers de cahiers des charges. Les cahiers des charges peuvent être, on va dire, publics, on va appeler ça comme ça, comme le bio ou le label, mais peuvent être aussi des initiatives de marques, de distributeurs ou de marques de producteurs. Et en fait, c'est à l'intérieur de ces cahiers des charges qu'on va retrouver un ensemble de critères, comme l'a cité Lydiane. Donc chacun, j'allais dire, pourra mettre le curseur plus ou moins haut dans son cahier des charges privé et devra se conformer à des normes en vigueur en fonction de si on est sur du bio ou sur du label. Ouais. Donc ça, c'est pour la nature des engagements. Et en fait, le contrôle se fait par des organismes certificateurs indépendants la plupart du temps.
Donc ça veut dire qu'en gros, s'il y a certification, j'imagine qu'il y a label ou étiquette, ça veut dire que potentiellement, le consommateur peut avoir des informations sur le niveau de bien-être des animaux qui lui ont fourni soit de la viande, soit éventuellement des produits comme des œufs ou du lait.
En pratique, il y a peu d'étiquetage direct ou en tout cas de signalisation directe du bien-être des animaux. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui une initiative qui est portée par l'Association pour l'étiquetage du bien-être animal, qui fait un étiquetage spécifique sur le bien-être animal, d'ailleurs qui utilise un référentiel qui a été mis en place dans le cadre du LIT Westerel. Et après, sur d'autres labels ou d'autres appellations, vous n'avez pas d'informations directement sur la mesure ou les mesures mises en place en ce qui concerne le bien-être animal. Après, vous avez quand même, derrière un certain nombre de labels, un certain nombre de pratiques qui sont plus ou moins favorables au bien-être des animaux.
Oui, puis il y a des indicateurs tiers, comme le fait de savoir qu'une poule a été élevée en batterie ou plutôt qu'elle a passé, entre guillemets, sa journée en plein champ. On se dit qu'il y en a une des deux qui doit être un peu plus heureuse que l'autre au quotidien.
Alors ça pose la question des pratiques en général. Donc il y a effectivement, donc là on peut faire référence aux œufs avec les numérotations 0, 1, 2, 3, avec les œufs bio qui sont marqués d'un 0 et les œufs en batterie qui sont marqués d'un 3. Donc évidemment, il y a une différence de confort, de vie ou de bien-être des animaux suivant les pratiques d'élevage. Ça me donne quand même l'occasion de donner un élément élément complémentaire dans la réflexion qu'on peut avoir autour du bien-être animal, l'accès à l'extérieur ne veut pas forcément dire bien-être des animaux. On peut prendre un exemple très très simple, hein, sans faire d'anthropomorphisme même d'ailleurs, c'est-à-dire qu'un animal qui est à l'extérieur, certes, mais qui n'a pas forcément à manger, qui n'est pas protégé des prédateurs ou qui n'a pas de lieu pour se protéger des intempéries, aura probablement un bien-être moins satisfaisant qu'un animal qui est à l'intérieur. Ouais. Donc ça, c'est une vérité générale, on va dire ça comme ça, mais après, Lydiane l'a très bien expliqué, les situations s'analysent au cas par cas, et globalement, on va dire, le travail est fait au travers des cahiers des charges et de leur mise en œuvre par les éleveurs pour que les conditions d'élevage respectent le plus possible les cahiers des charges.
Du coup, quelle peut être votre contribution en tant que directeur du LIT Westerel, donc le laboratoire d'innovation territoriale? Donc je récapitule, Westerel, ça veut dire Ouest Territoire d'élevage.
Alors, on va être modeste pendant deux secondes. En tant que directeur, je fais juste, j'allais dire, le lien entre tous ces acteurs-là, puisque les acteurs-là étant tous ceux qui sont concernés par la question de l'élevage, que ce soit les éleveurs, les transporteurs, les abatteurs, les scientifiques, les associations de protection animale, mais aussi les citoyens, les consommateurs et les élus. En fait, pourquoi est-ce qu'on dit les choses comme ça? C'est parce que le LIT Westerel, donc c'est une initiative qui est assez récente, qui est connectée à un projet qui est porté par INRAE, un projet qui est financé dans le cadre des investissements d'avenir par la Caisse des dépôts consignation. En fait, c'est un projet qui rassemble un certain nombre de partenaires, 14 très exactement, qui ont comme ambition de concilier élevage et société. Donc ça, c'est l'ambition principale.
Concilier ou réconcilier
Alors, il y a la notion de réconcilier quand on est fâché. Donc, ça veut dire qu'on peut évaluer le fait que la société et l'élevage soient fâchés ou pas. Et il y a concilier, quand on est dans l'idée de concilier, c'est qu'on se projette dans un futur où l'élevage a trouvé sa place à côté de la société qui a trouvé sa place à côté de l'élevage. Suivant le diagnostic qu'on peut faire du point de départ, on peut réconcilier, mais notre intention principale, elle est de concilier avant tout. Donc, le projet en lui-même, le LIT Westerel, donc il est opéré par un certain nombre d'acteurs, dont INRAE, mais aussi des instituts techniques. Et on a créé spécifiquement pour, on va dire, incarner cette idée de collectif, en fait, cette idée d'avoir l'ensemble des parties prenantes, comme on dit, hein, tous les acteurs que j'ai cités tout à l'heure autour de la table. On a constitué une association qui s'appelle, comme le nom du projet, LIT Westerel. Et en fait, l'objectif principal de cette association, c'est d'être un lieu, on va appeler neutre, de concertation, de consultation et même de controverse pour l'ensemble des acteurs qui peuvent être présents, mobilisés sur un ensemble de questions. Et donc, pour favoriser ce dialogue, pour qu'on arrive justement à cette idée de concilier élevage et société.
Et parmi les objectifs du laboratoire, j'ai lu qu'il y avait la diminution du recours aux antibiotiques. Ça veut dire quoi exactement ?
Alors, j'allais dire pour un point évidemment presque trivial, c'est les animaux tombent malades aussi, et comme nous, quand on a des symptômes, on essaie de les traiter avec les médicaments, ou en tout cas la pharmacopée qu'on maîtrise. Donc les antibiotiques en sont un outil parmi d'autres. En fait, il y a un travail très important qui a déjà été fait sous le programme qu'on appelle Eco-Antibio, qui a été fait pour réduire l'usage des antibiotiques dans les élevages. Et en fait, l'idée ou l'objectif que se fixe le LIT Westerel, c'est de continuer à s'inscrire dans cette dynamique-là de réduction de l'usage de ces antibiotiques, et surtout tout en maintenant un bon état de santé des animaux. Donc il ne s'agit pas de réduire l'usage des antibiotiques et donc de laisser les maladies courir. Et donc ce qui veut dire, c'est que ce point-là autour de la réduction de l'usage des antibiotiques vient en complément, j'allais dire, d'un ensemble d'autres pratiques qui peuvent être favorables à l'état de bien-être et de santé de l'animal.
Oui, des animaux en meilleure santé qui ne tombent pas malades et donc qui n'ont pas besoin d'antibiotiques qu'on peut retrouver potentiellement un peu plus tard dans la viande.
Alors oui, il y a ça comme notion, c'est-à-dire la sécurité alimentaire. Encore que, sans être expert, je suppose qu'il y a un certain nombre de normes qui nous permettent de ne pas avoir des taux extrêmes dans l'alimentation. Je ne sais pas, je suis pas capable d'en parler mieux que ça. Mais en tout cas, il y a aussi une autre notion qui est importante. C'est la même question, en fait, que pour les humains. Les antibiotiques, ce n'est pas automatique. Ben, c'est pareil pour les animaux. Si on veut garder une chance que ces substances continuent d'être actives, il faut en faire un usage raisonné. Et donc, Eco-Antibio s'inscrivait aussi dans cette notion de santé publique ou de santé en tant que bien commun. Nos actions sur cet axe-là, à savoir réduire l'usage des antibiotiques, s'inscrivent dans cette logique.
Il y a un mot qui est revenu et qui est important, je pense, c'est celui de la société. Moi, je me pose la question, c'est savoir si justement la population, les consommateurs que vous croisez ou que vous étudiez via des analyses statistiques, est-ce que vous observez une prise de conscience ou un niveau d'intérêt plus important qu'avant pour les conditions d'élevage des animaux qui fournissent de la viande ou des produits comme le lait ou les œufs?
Ce qu'on observe globalement, que ce soit au travers de nos ateliers ou des échanges qu'on peut avoir direct avec donc ce qu'on appelle la société, ce sont des consommateurs, des personnes qu'on va voir sur les marchés ou qu'on réunit au cours des ateliers, c'est que la place de l'animal dans la société est en train d'évoluer. En tout cas, la vision qu'on peut en avoir est en train d'évoluer. Et ce point-là devient de plus en plus visible au cours des années. Je pense qu'il y a des enquêtes d'opinion qui le prouvent. Alors on peut essayer d'expliquer cela, je pense qu'il y a une partie de l'explication qui peut venir du fait que sous la pression écologique, on a un souci de plus en plus important du vivant dans l'opinion publique. À ça vient aussi s'adosser la diffusion des connaissances que la science a pu acquérir depuis les années 80. En fait, la question du bien-être animal est un sujet de recherche depuis le début des années 80, et tout ça vient transformer la vision qu'on pouvait avoir, qu'on doit un peu à Descartes, d'un animal comme une machine productive, un animal qui est peut-être un petit peu plus proche de l'homme. Et donc, on a une frontière qui est en train de devenir un petit peu plus floue entre ce qu'est un animal et ce qu'est un homme. On sait qu'il y a des souffrances, on sait qu'il y a des émotions, on sait que les animaux sont capables de communiquer. On se pose les questions aussi sur la notion de conscience chez les animaux. Donc, tout ça, forcément, d'une certaine façon, a un impact sur l'opinion publique, au sens général, et donc sur la place que peut avoir l'animal dans cette société.
La question qui suit, elle est assez évidente, c'est qu'en est-il chez les éleveurs ? J'imagine que pour eux, ça leur fait une critique supplémentaire et qu'ils ne doivent pas se réjouir des masses qu'on leur demande de faire davantage pour les animaux, mais aussi peut-être davantage de traçabilité sur leurs pratiques.
Alors, il faut savoir que les éleveurs sont avant tout pragmatiques. Ils ont des animaux à élever et c'est leur façon de se rémunérer, donc de vivre. Et donc, ils ont intérêt par définition à ce que leurs animaux aillent bien, tout simplement parce que des animaux qui vont bien, ce sont des animaux qui produisent mieux pour eux et donc qui assurent le fonctionnement de leur activité et donc leur vie au quotidien. Donc ça, c'est un premier élément. Le second élément, quand on parle de bien-être aux éleveurs, et donc là, encore une fois, comme je me faisais d'une certaine façon l'écho de ce qu'on peut entendre de la part de la société, je peux me faire l'écho de ce qu'on peut entendre de la part des éleveurs. Quand on parle de bien-être animal à un éleveur, un point important à ne pas négliger, c'est le bien-être de l'éleveur lui-même. Évidemment, un éleveur qui peut travailler dans des bonnes conditions peut d'autant mieux s'occuper de ses animaux. Donc ça, c'est un élément central de la discussion qu'il peut y avoir autour des éleveurs. Maintenant, les éleveurs aujourd'hui, en tout cas ceux avec lesquels on interagit évidemment, ne voient pas, j'allais dire, une contrainte majeure à améliorer le bien-être de leurs animaux, au contraire, dans le sens le bien-être de leurs animaux au quotidien. Maintenant, ce qui est évident pour eux, encore une fois, c'est que améliorer le bien-être, bien souvent, ça se traduit par des investissements significatifs. Ça peut se traduire par des petits changements au quotidien, mais bien souvent, ça se traduit par des investissements significatifs. Et donc, ça réinterroge sur la façon dont ces éleveurs peuvent amortir ces coûts-là, et donc la façon dont, j'allais dire, le surcoût, ou en tout cas le coût lié à l'augmentation du bien-être des animaux est pris en charge. Et donc, il y a des pistes pour ça. Donc, il peut y avoir effectivement la première, entre guillemets, la plus simple, mais la moins drôle pour ceux qui nous écoutent, c'est l'augmentation du prix de la viande, ou des œufs, etc., ou du lait. Et puis, il peut y avoir aussi toutes les questions de politique publique, à savoir comment est-ce que collectivement, la société prend en charge ce critère-là, ou l'augmentation de ce critère-là, le bien-être animal, en y ajoutant, du coup, ou en y adossant une forme de bien commun.
Non, mais c'est pas autorisé, vous vous rendez pas compte. Je me suis renseigné, ça reste relativement du porc.
Eh bien, on fera une petite entorse au règlement.
Est-ce que ces nouvelles contraintes, potentiellement, qui peuvent peser sur le monde de l'élevage, elles sont compatibles avec les faits qui sont ceux aujourd'hui de l'industrie, parce que c'est le cas d'autant plus, je crois, en Bretagne, où 1% des exploitations fournissent 2/3 des porcs, poulets et des œufs produits en France. Donc, ça veut dire qu'en gros, on est plutôt sur des grosses exploitations et de l'élevage intensif.
En fait, sans faire d'apologie ou de critique, il faut décorréler la notion de taille avec la notion de bien-être animal. On peut très bien avoir une exploitation, pour reprendre des porcs, avec 1000 porcs, qui est parfaitement favorable au bien-être des animaux, et avoir une exploitation de 50 porcs qui est déplorable. Donc en fait, cette dimension-là, c'est-à-dire la taille de l'entreprise, n'est pas un garant du bien-être ou du mal-être des animaux. Donc ça, c'est un premier élément. Le second élément, c'est que, vous avez parlé de notion d'industrie, c'est que aujourd'hui on produit un certain nombre de volumes pour pouvoir nourrir l'ensemble des Français, et puis parfois au-delà. La question, c'est que tout ça génère des investissements significatifs. Et donc, en fait, la logique industrielle, en général, c'est de pouvoir faire des économies d'échelle. J'allais dire, les exploitations de grande taille, sur le papier, sont probablement même plus favorables à mettre en place des systèmes importants de bien-être animal, d'un point de vue strictement économique, que des exploitations de plus petite taille. Maintenant, dans les faits, ça se traduit pas forcément comme ça, parce qu'en fait, la question, c'est sur quel marché et à quel marché ces exploitations-là répondent. Et sur des marchés, on va dire, de proximité à haute valeur ajoutée, on va les appeler comme ça, c'est-à-dire là où les clients sont captifs, ou sont capables d'accepter de payer un prix plus élevé, on peut avoir plus de liberté pour répondre à un certain nombre de critères de bien-être animal que sur des grandes exploitations qui peuvent s'adresser à des marchés qui sont plus, entre guillemets, de masse et pour lesquels les produits, on attend des prix qui soient plus serrés.
Ouais, c'est peut-être ce principal frein, c'est ça, c'est le prix, c'est le premier frein au bien-être animal aujourd'hui ?
Alors, je ne serais pas capable de dire si c'est le premier, mais en tout cas, c'est celui qui pose le plus de questions, puisque comme je disais, le fait qu'on se préoccupe de plus en plus de la question du bien-être animal d'abord, d'un point de vue sociétal, mais aussi d'un point de vue technique, hein, les éleveurs et tous les intermédiaires, le fait que la science nous permette d'en savoir plus sur ce qu'est le bien-être animal, ça génère des besoins en pratique et en installation qui sont différents de ce qu'on a pu faire jusqu'à présent. Et donc ça veut dire des investissements massifs ou significatifs en tout cas sur les exploitations, et donc ça pose la question de l'amortissement de ces investissements. Donc oui, la question du prix est un élément central, oui.
On a parlé de celui du prix. Est-ce que une autre forme de pression, c'est pas celle de la production? C'est-à-dire que aujourd'hui, les Français consomment énormément de viande et de produits d'origine animale. Se pose de plus en plus la question avec les végétariens, les végétaliens, d'abaisser la quantité de viande et de produits d'origine animale que nous consommons. Est-ce que cette question-là, elle se pose également chez vous et même chez les éleveurs, hein, qui y sont peut-être confrontés?
On observe, j'allais dire, de façon tendancielle, une baisse de la consommation de viande en France. C'est pas vrai à l'échelle de la planète. Il y a des pays qui consomment de plus en plus de viande. Et donc la France ne produit pas que pour la France. Mmh. Et donc c'est ça aussi qui peut interroger globalement le modèle agricole. On se décale un peu de la question du bien-être animal, mais il n'empêche que la façon dont on peut raccrocher le bien-être à cette question-là, c'est de se dire quelle agriculture on veut en France. Est-ce qu'on veut une agriculture, j'allais dire premium, qui permette de nous nourrir à coût élevé, ou est-ce qu'on veut une agriculture moins premium, etc. Donc c'est ça un peu la question qu'on peut se poser. Et en fait, le bien-être animal vient réinterroger, j'allais dire, la segmentation du marché, on va dire ça comme ça. Qu'est-ce qu'on produit en France et pour qui ?
Non, très intéressant. Cette question, j'imagine qu'elle va se poser d'elle-même lors des ateliers que vous organisez lors du Turfu Festival. Pourquoi avez-vous opté pour une approche participative sur la question du bien-être animal en réunissant consommateurs et agriculteurs autour de la table?
Alors la première raison, c'est parce que c'est, j'allais dire, c'est notre ambition de concilier élevage et société, mais en fait, et surtout, c'est parce qu'il y a deux notions importantes à avoir en tête ici. C'est qu'au travers des travaux qu'on a conduits jusqu'ici, on se rend compte, et je pense que c'est pas une grande surprise que de dire ça, que la société, d'une certaine façon, est distante de l'élevage et puis de l'agriculture en général, pour une raison très très simple, c'est qu'on est beaucoup plus urbain qu'à une époque. Donc ça, c'est le premier élément. On est beaucoup moins proche des exploitations agricoles, on connaît moins le milieu agricole en général en France. La deuxième chose, c'est que le métier de l'élevage et puis de l'agriculture en général est devenu un métier de plus en plus technique, avec de plus en plus de contraintes, de plus en plus spécialisé, et donc qui demande, j'allais dire, un niveau de compréhension de plus en plus élevé. Et donc, mécaniquement, l'élevage s'est distancié de la société en termes d'accessibilité des informations et des pratiques qui sont mises en œuvre. Donc ça, c'est un premier constat sur lequel on s'appuie pour favoriser des démarches participatives, c'est-à-dire que le premier élément, on a besoin, en tout cas pour faire nos exercices que je vais décrire plus tard, de réduire la distance entre des acteurs, l'élevage et la société. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que je l'abordais un petit peu tout à l'heure, hein, avec la notion de bien commun, on l'aborde aussi un peu avec la notion de prix, on l'aborde aussi avec la notion de modèle d'élevage qu'on veut en France. En fait, le bien-être animal nous autorise, d'une certaine façon, à réouvrir une sorte de contrat social autour de l'élevage. Quel élevage on veut en France, c'est pas que les éleveurs qui peuvent le décider, c'est aussi les consommateurs par leur acte d'achat. Et donc si on veut se projeter dans un temps suffisamment long pour permettre aux éleveurs d'avoir une perspective économique pour rentrer dans la démarche que je citais précédemment, à savoir faire des installations d'un coût significatif, on pense que de pouvoir, j'allais dire, construire les futurs en commun est d'autant plus performant à la fois pour la société et pour les éleveurs.
J'imagine que vous devez marcher sur des œufs, sans mauvais jeu de mots, au moment d'approcher en tout cas les éleveurs qui doivent se sentir quand même assez épiés, et leur profession, on ne peut pas dire qu'elle soit énormément valorisée en ce moment. Et quand vous leur proposez de s'asseoir à la table avec des consommateurs, comment ça se passe? J'imagine que vous prenez des gants?
Non, pas particulièrement.
Ah bah, très bien.
En fait, il y a une volonté, et c'est ce qu'on observe beaucoup dans nos ateliers, c'est ce qui ressort même, j'allais dire, quasiment tout le temps dans nos ateliers. C'est-à-dire qu'il y a un besoin de renouer le contact ou de recréer des liens ou de créer des liens et d'instaurer la confiance. Et en fait, vous avez au moins les personnes qu'on a autour de nos tables lors de nos ateliers. Les deux parties expriment le même souhait de se rapprocher, de mieux connaître l'autre ou de mieux se faire connaître de l'autre. Donc au contraire, au-delà des aspects, j'allais dire, logistiques, qu'il faut prendre un petit peu de son temps pour participer à ces ateliers-là, au contraire, le fait de mettre élevage et société ou éleveur et consommateur, parents d'élèves, voisins, etc. autour de la même table, jusqu'à présent, ça a toujours été même des bons moments d'échange, de rencontres.
Ces ateliers organisés lors du Turfu Festival, c'est pas les premiers que vous organisez. Vous en avez déjà mené quelques-uns, je crois, hein, cet été. Quelles actions sont nées de ces premiers ateliers?
Alors oui, effectivement, on a quelques ateliers qui fonctionnent en Normandie. Fonctionnent, c'est-à-dire qu'ils sont encore en cours, hein. Les ateliers, ce sont des séries de plusieurs ateliers en Normandie, en Bretagne et en Pays de la Loire. En Normandie en particulier, on travaille avec le DOM, qui nous apporte un soutien à la fois méthodologique, d'orientation, de montage, de réalisation des ateliers. Et donc aujourd'hui, on a travaillé, pour vous donner quelques exemples, on travaille actuellement sur la mise en place d'un abattage mobile des animaux, donc pour favoriser, on va dire, la réduction des temps de transport et les stress des animaux qui peut être lié à ce transport. Dans les autres régions, pour prendre un exemple, en Pays de la Loire, on travaille sur l'inclusion de la notion du bien-être animal dans la commande publique, donc avec l'idée d'avoir dans les assiettes des élèves des produits qui sont produits plus localement et dans des meilleures conditions. Puis pour donner encore un autre exemple, si on veut, il y a un travail qu'on est en train de mener en Bretagne sur les alternatives à la castration à vif des porcelets. Donc les porcs sont castrés très jeunes. Donc il y a un certain nombre d'obligations réglementaires qui sont en train de se mettre en place, comme l'interdiction de la castration à vif en l'occurrence. Et donc la question, c'est de savoir et de voir comment est-ce que la filière peut s'organiser localement, c'est-à-dire en particulier autour de Rostronin, donc le centre Bretagne, pour réussir à mettre en œuvre les nouvelles pratiques. Et quand on dit réussir, il n'y a pas que la dimension technique, il y a aussi la dimension filière avec l'ensemble des acteurs d'un point de vue économique, mais aussi il y a la dimension sociale ou sociétale, comme on disait précédemment, avec le goût des produits, la qualité des produits, et puis, j'allais dire, l'image d'un territoire qui prend soin de ses animaux.
Ce qu'il faut savoir, c'est que dans des démarches participatives comme celle-ci, elles suivent toujours le même déroulé, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas comme ça de but en blanc en disant « Hey, on va tout rénover, innover », déjà parce qu'il y a des personnes qui bossent là-dessus depuis pas mal d'années qui pourront en partie prendre mal, donc il y a toujours une phase de découverte et puis de se dire comment est-ce que on est d'accord ensemble sur ce quoi on parle. Donc il y a une phase d'acculturation, on problématise, voilà. On rencontre aussi des équipes et chercheurs, le grand public est aussi invité à venir discuter avec les chercheurs. C'est comme ça qu'on a déjà eu l'occasion de bosser avec Liliane, hein, qui est venue sur des conférences participatives là-dessus. Et puis après, on enchaîne avec des ateliers où on va imaginer, on va concevoir. Et c'est vrai que les phases qui vont suivre, on va être sur des phases qui concernent, en fait, on l'espère en tout cas, réussir à prototyper et mettre en œuvre certaines des idées qui sont sorties de ces ateliers. Donc c'est le chemin qui est suivi, hein. C'est comment on passe d'une idée à du concret et c'est de fabriquer, prototyper certaines des choses qui sortiront des ateliers.
2500 pièces d'or? Mais vous voulez que je trouve 2500 pièces d'or dans le cul d'une vache?
Comment?
Excusez-moi, sire, c'est sur le coup du...
Surveillez-vous.
Bon, je suis désolé d'être pragmatique, mais on va revenir sur un point que j'évoquais tout à l'heure, c'est celui du prix. Alors, le succès du bio montre qu'une partie grandissante des consommateurs est prête à payer plus cher des aliments non traités avec des produits de synthèse, mais est-ce qu'il peut en être de même avec des produits qui se vanteront d'avoir un haut niveau de bien-être animal comme le Lit Westerel souhaite en voir davantage?
Alors cette question est un sujet de recherche en tant que tel pour le Lit Westerel, puisqu'on observe au travers des enquêtes qui sont faites au niveau national que les Français en général déclarent être prêts à payer plus cher pour de la viande ou des produits animaux avec un plus haut niveau de bien-être animal, l'augmentation du prix pouvant atteindre jusqu'à 10%. Or, dans les faits, on ne retrouve pas cette intention-là dans les actes d'achat. Donc, il n'y a pas de corrélation entre les intentions et les actes d'achat. Oui. Et même en allant plus loin, quand on a des échanges au niveau locaux, en tout cas, un des premiers éléments autour de la viande et de son prix est la viande, c'est trop cher.
On n'est pas à une contradiction près, quoi.
Donc, c'est une contradiction, effectivement, qu'on va se devoir d'étudier, puisqu'il y a effectivement un certain nombre de façons, on va dire, de valoriser la viande ou le surcoût lié au bien-être animal. C'est effectivement la question du prix que peut payer le consommateur, mais aussi la façon dont on peut répartir le surcoût entre les intermédiaires, parce qu'il y a un certain nombre d'intermédiaires entre l'élevage et le consommateur, hein, donc le transport, l'abattage, la transformation, la commercialisation. Et puis il y a une autre piste aussi qui est travaillée, et là on retourne dans la notion de bien public, hein, qui est l'ensemble des aides, en particulier avec la question de la politique agricole commune.
Est-ce qu'il n'y a pas une partie marketing? Puisque c'est vrai que moi, quand j'ai commencé à réfléchir un peu sur ce sujet, je me suis dit, tiens, si on parle d'animaux et de bien-être dans les élevages, je vais tout de suite penser au bœuf de Kobe dont on dit qu'il est massé avec du saké au quotidien et ce qui lui donne ce côté une viande à la fois persillée et très tendre en bouche. C'est un récit, hein, c'est une histoire. J'imagine que tous les bœufs de Kobe ne bénéficient pas de ces conditions un peu idylliques, hein, dont même moi je rêverais. Il n'y a pas aussi un travail à faire de ce côté de la valorisation de ce qu'est le bien-être animal et de ce qu'il peut apporter au final, non seulement à l'animal, mais aussi peut-être dans l'assiette.
C'est un peu bateau ce que je vais dire, mais le marketing sert à répondre à des marchés. Il y a effectivement une part des consommateurs qui sont prêts à payer très cher pour leur imaginaire, pour leur capacité financière, pour leur choix personnel en termes d'éthique ou de santé. Et puis, il y a d'autres parties de la population qui n'ont pas les moyens, donc ils n'ont peuvent pas se poser d'autres questions que celles du prix. Donc le marketing sert surtout à ça, à flécher les produits. Après, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on veut faire en sorte qu'il y ait, j'allais dire, quelques premium, quelques bœufs de Kobe, quelques poulets en France qui vont bien, ou très très bien, ou est-ce qu'on veut faire en sorte que le bien-être animal soit accessible au plus grand nombre. Et en fait, c'est plutôt cette approche-là qu'on a dans le Lead to Sterile, et qui se traduit d'ailleurs par les fameuses marches dans le référentiel mis en place par le Lead to Sterile, c'est que ce référentiel-là, en fait, traduit une volonté de plan de progrès qui soit accessible à tous. On a dans l'idée que l'augmentation du bien-être des animaux est accessible à tous et ne doit pas être réservé, je vais dire ça comme ça, à une partie élite qui serait capable de s'offrir.
De se le payer, oui. Dit comme ça, c'est sûr que moi aussi, je préférerais que ce soit quelque chose de généralisé, oui. J'ai vu que certaines marques comme l'œuf qui ne tue pas la poule avaient pris à bras-le-corps cette problématique. Alors bon, là, tout est dit dans le sujet. Qu'est-ce que vous pensez de ce genre d'initiative entrepreneuriale ?
J'allais dire, toutes les initiatives favorables au bien-être des animaux sont bonnes à prendre. Encore une fois, ça va être la question des segments de marché. Donc, c'est une entreprise qui se positionne sur un créneau, certainement avec un ensemble de bonnes intentions. Mais en tout cas, ça pose la question de savoir comment est-ce qu'on déplace, entre guillemets, les grandes masses. Et ces initiatives individuelles, ou ces initiatives, j'allais presque dire, de petite dimension en termes de volume de production, peuvent être aussi des exemples pour d'autres acteurs. Et puis d'ailleurs, ça nous fait faire un lien avec le principe de Living Lab ou de laboratoire vivant, puisque quand on dit Lead to Sterile, ça veut dire laboratoire d'innovation territoriale. C'est un peu l'intention qu'on a en disant laboratoire. C'est sur un certain nombre de territoires, avec un certain nombre d'acteurs, de mener des initiatives jusqu'au bout, c'est ce que disait François tout à l'heure, et de montrer qu'on peut faire un certain nombre d'opérations, d'actions, d'innovations, d'organisations, etc., qui sont favorables au bien-être des animaux et qui pourront, on l'espère en tout cas, inspirer d'autres acteurs sur d'autres territoires.
Je le précise parce que je ne l'ai pas fait dans ma question, mais l'œuf qui ne tue pas la poule, le principe c'est qu'en gros, au lieu de... entre guillemets, changer la poule quand elle ne produit plus assez d'œufs et qu'elle a un petit peu vieilli. L'idée, c'est plutôt de la laisser vivre sa vie et qu'elle continue à donner des œufs ou qu'elle parte en maison de retraite pour poule plutôt que d'être abattue. Voilà, c'était juste attention de nos auditeurs. François, j'ai peut-être une petite question pour toi. On a beaucoup parlé de ces ateliers menés par le Lead to Sterile. J'imagine qu'il n'y a pas que ça au Turfu Festival. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu l'état des choses tels qu'ils sont aujourd'hui? On est le 5 octobre quand on enregistre pour cette édition 2021 qui aura lieu donc du 11 au 16 octobre au Dôme de Caen.
Alors oui, effectivement, le bien-être animal, il y a plusieurs ateliers qui sont programmés pendant toute cette session. Il y en a qui sont programmés au Haras du Pin, dans l'Orne, en pleine campagne, et d'autres qui sont programmés au Dôme. Ce n'est pas les seuls projets non plus qui sont proposés dans le cadre du Turf Festival cette année autour de l'alimentation. On bosse aussi avec une épicerie solidaire sur le concept de démocratie et de sécurité sociale alimentaire. Donc là, voilà, la question de l'alimentation se retrouve aussi dans pas mal de sujets. C'est un des thèmes parce qu'on a plus de 70 ateliers différents. On est presque à entre 100 et 150 sessions comme ça d'ateliers. Donc je vous laisse imaginer la grande diversité. On a des choses qui tournent également autour de la montée des eaux parce que la Normandie est un territoire côtier. Donc la question de la montée des eaux est très présente et très prégnante aussi dans notre environnement proche. On a beaucoup de choses et de sujets qui tournent autour de la question des données, de la data, comment est-ce qu'on intègre les données. On aurait pu aussi en parler avec le bien-être animal parce qu'il y a de plus en plus de choses qui sont imaginées et traitées autour de est-ce que c'est de la donnée d'intelligence artificielle que viendra le bien-être animal. En l'occurrence, c'est pas celui-là qu'on traitera cette année, mais on a pas mal de choses sur ce sujet-là. Voilà un petit échantillon des sujets. Le principe de tous ces ateliers, c'est vraiment d'inviter des publics à venir de toute façon rencontrer, débattre, imaginer et parfois fabriquer, prototyper ou tester des choses avec tantôt des entrepreneurs, associations ou chercheurs. Donc vraiment, cette dynamique de recherche et d'innovation participative. Donc le bien-être animal en est un. C'est intéressant en plus parce qu'il mixe autant des questions technologiques que d'éthologie, on l'a vu. Donc c'est ça aussi qui nous intéresse, c'est de croiser des approches et puis de montrer que c'est pas parce qu'on n'est pas expert finalement d'un sujet qu'on peut pas y apporter une contribution, une idée, ou que finalement le principe d'intelligence collective, des fois il y a peut-être des idées comme ça qui peuvent sembler saugrenues et qui vont permettre de faire un pas de côté par rapport à des problématiques ou à des enjeux de science et de société.
Je rappelle une chose, c'est que les ateliers sont totalement gratuits, il suffit juste de s'y inscrire en ligne, c'est bien ça?
Tout à fait, tout est gratuit, c'est fait dans le cadre de la fête de la science, donc ça fait partie de la charte aussi de la fête de la science. Donc le Turfu s'inscrit dans cette fête de la science et tout est gratuit, accessible en ligne. Et cette année en plus le Turfu Festival se régionalise parce qu'on a plusieurs ateliers un peu partout en région. On a voilà, on l'a dit, hein, dans l'Orne avec le bien-être animal. On en a aussi à Rouen et à Évreux sur le fait de transformer un car en car qui fonctionnerait avec de l'hydrogène. Donc, on invite les gens aussi à se positionner sur ce genre d'évolution. On en a à Falaise, on en a sur la côte. Là, aujourd'hui, au moment où on enregistre, on sort d'une campagne de mesures participatives de radioactivité sur la côte. Et puis, on les retrouvera aussi pendant la semaine du Turfu Festival. Tous ces ateliers-là sont accessibles gratuits à l'échelle de la région et du Dôme, bien sûr, aussi à Caen.
Merci François. On aura beaucoup parlé. Maintenant, c'est à vous de jouer. Rendez-vous aux ateliers consacrés au bien-être animal et à tous les autres sujets au Turfu Festival, qui se tiendra au Dôme de Caen du 11 au 16 octobre et un peu partout en France. On l'a vu avec François. Si vous avez des choses à nous dire, mais que vous ne pouvez pas faire le déplacement, mailez-nous du bout de vos petits doigts. On adore lire vos missives à voix haute dans l'open space de 20 minutes. Je redonne mon adresse, c'est audio@20minutes.fr. Vous pouvez aussi laisser un commentaire rehaussé de 5 étoiles sur la page iTunes de 6ème Science. À dans 2 semaines, et n'oubliez pas, bien-être ou être bien, on ne fait pas de différence, on envoie de la science dans tous les sens.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Here's a question for the marketers listening. Want to find that perfect customer beyond the world of scrolling, swiping, and searching? Here's a secret to make sparks fly. Smooth talking with podcast ads. With Acast, you can reach millions of listeners who'll be hanging on your every word. On the train to work, in the gym, or waiting in line for coffee. Start up the conversation with podcast listeners anywhere and everywhere. And they're looking for love. 60% of listeners have a higher trust in brands they've met on podcasts compared to social. Get closer to your audience. Make podcast ads with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.
On ne va pas se quitter comme ça. Vous avez aimé cet épisode? Sportif, généraliste, sexo ou scientifique, varié mais toujours bien informé. Découvrez les autres podcasts de la rédaction 20 minutes sur votre application d'écoute préférée ou directement sur podcast au pluriel.20minutes.fr. Et merci de nous avoir écoutés.